Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous propose Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Orange.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons l'avocat togolais Pascal Agboyibor. Bonjour maître Agboyibor.
Bonjour Jean-Pierre Boris, bonjour Frédéric Maury.
Pascal Agboyibor, vous êtes le premier invité de cette nouvelle année, de cette année 2017. Je forme donc le vœu que ce soit pour vous, comme pour nos auditeurs, annonciateur de très bonnes choses pour les 12 mois qui viennent. Mais d'abord, si vous le voulez bien, quelques mots sur votre parcours. Pascal Agboyibor, vous êtes né au Togo en 1967, il y a donc quelques années de cela. Votre père y est lui-même avocat, très connu à Lomé. Il a été Premier ministre pendant 15 mois en 2006-2007. Pourquoi n'être pas resté à Lomé au Togo, exercer avec votre père? C'est une habitude souvent chez les avocats, on exerce en famille.
C'est tout à fait correct, mais permettez-moi, Jean-Pierre Boris, vous remercier de m'avoir invité à cette émission et surtout en ce début d'année, vous le rappeliez que j'étais le premier invité de l'année 2017, de présenter mes meilleurs vœux d'abord à vous-même, et à Frédéric Maury, à toute à RFI et à vos auditeurs. Hein. Je souhaite une belle, heureuse année à tous vos auditeurs et à tout le continent.
Mais répondez-moi donc sur cette question, pourquoi ne pas avoir souhaité travailler aux côtés de votre père, très installé à Lomé?
Je pense effectivement, on peut dire que c'est un accident. Après l'accident, est-il heureux ou malheureux? On ne sait pas, mais effectivement, je peux dire que c'est un accident de parcours dans la mesure où, après mon collège au Togo, j'ai été effectivement envoyé en France poursuivre mes études, le lycée, études supérieures. Et dans ces années-là, je pense que c'était une évidence pour moi-même comme pour la famille que, après mes études, je rentrerais être avocat et logiquement, effectivement, exercer au sein du cabinet de mon père. La vérité est qu'on ne choisit pas toujours. On peut toujours réécrire également l'histoire, mais dans les années où je finissais mes études universitaires, le Togo était en pleine crise politique. Hein. J'ai fini mes études en 93, et l'année 93 coïncidait avec la grande année de la crise. Je crois que le Togo était au plus fort de la crise politique, avec des exilés au Ghana, au Bénin, et tous ceux qui le pouvaient ont fui le pays et le continent à l'époque. Et donc le timing n'était pas bon, j'allais dire.
Pour rentrer au pays.
Ce n'était pas le moment où tout le monde fuyait que moi j'allais rentrer. Donc cela m'a contraint à prolonger mon séjour en France, et que finalement, en dépit de l'espoir de rentrer quelques mois, en espérant une accalmie, en effet, la crise s'est prolongée, donc j'ai dû rechercher une collaboration en France, et cette collaboration était censée également pour être d'une courte durée. Et
elle se poursuit.
20 ans plus tard, elle se poursuit, mais en définitive, ce que je fais aujourd'hui, je considère que je travaille, je sers, je suis avocat, finalement consacrant 100% de mon activité à l'Afrique. Et je voyage tellement que finalement, avocat au Togo, avocat à Paris, je fais ce que j'aurais fait peut-être avec caractère international, évidemment moindre.
Mais Alors, vous le faites au sein d'un cabinet prestigieux, qui est le cabinet américain ORIC, un cabinet très important, l'un des plus gros au monde. Il y a 1100 avocats, 2500 collaborateurs au total, et vous êtes membre du conseil d'administration de ce cabinet ORIC. Il y a 11 membres dans ce conseil d'administration, donc vous êtes un des 11 saints de cette entreprise. Comment, quand on est né au Togo, à Lomé, arrive-t-on à ce niveau de reconnaissance, de pouvoir au sein d'un grand cabinet américain?
Ce qui est certain, c'est que rien n'est écrit. Tout ça peut paraître effectivement surprenant, exceptionnel, en tout cas pas
Je veux dire, est-ce qu'il faut beaucoup d'ambition, de travail?
Je ne connais pas de métier où sans ambition et sans travail, on parvient à se réaliser, à parvenir au sommet. Je n'y crois pas. Donc forcément, il faut beaucoup de travail. Mais sur cette terre, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Donc je pense que très modestement et humblement, il faut ajouter d'autres facteurs. Les facteurs, ça peut être la chance, les facteurs, ça peut être l'opportunité. Mais oui, il a fallu, en tant que jeune collaborateur, chercher à se dépasser à tout instant. Le cabinet d'affaires, c'est un cabinet qui impose un rythme effréné, donc il faut déjà démontrer sa capacité à soutenir ce rythme. Moi, j'ai le souvenir que j'ai décroché ma collaboration dans mon premier cabinet où je n'étais que stagiaire, parce que j'ai pu soutenir le rythme de trois nuits blanches. Et trois nuits blanches, croyez-moi, il faut résister. Donc c'est à la fin de la transaction, le contrat a été signé, les clients étaient contents, l'associé en question était content et m'a dit: vous avez décroché votre collaboration. Mais c'est le prix à payer, c'était trois nuits blanches, et ça s'est poursuivi.
Alors ainsi. Pascal Agboyibor, au cours de cette émission, nous vous demanderons quel regard vous portez sur l'actualité économique africaine, et nous parlerons aussi de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, le nouveau président américain, qui sera investi très précisément le vendredi 20 janvier prochain. Première question de Frédéric Maury de Jeune Afrique.
Alors, monsieur Agboyibor, Jean-Pierre, on a parlé, vous travaillez pour un cabinet qui s'appelle ORIC. Je suis pas sûr qu'il soit forcément très connu par les auditeurs de RFI, mais enfin, ORIC, c'est un des plus grands cabinets mondiaux, qui est d'origine américaine. 1100 avocats, et vous dirigez la pratique Afrique. Et en fait, vous êtes avocat d'affaires. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est exactement un avocat d'affaires par rapport à un avocat pénaliste ou par rapport à d'autres types d'avocats?
D'abord, effectivement, le cabinet ORIC, c'est un cabinet fondé à San Francisco il y a plus de 150 ans. Donc c'est un vieux cabinet. Ça ne plaît pas toujours à nos collègues californiens, parce que tout en étant un vieux cabinet, notre cabinet est probablement un des trois premiers cabinets animateurs de la Silicon Valley, donc totalement impliqué dans la nouvelle économie. Donc vieux par son ancienneté, mais tellement moderne et jeune par les entreprises que nous accueillons et que nous accompagnons, comme les Facebook par exemple, créés par notre cabinet.
Comment dites-vous, Facebook créé par votre cabinet?
Oui, donc vous voyez bien.
Vous avez mis en place les conditions juridiques de son existence.
Oui, parce que un des associés du cabinet était l'avocat d'origine des fondateurs de Facebook. Donc c'est comme ça, c'est là que le cabinet a une histoire ancienne et très forte avec Facebook, naturellement. Pour revenir à votre question, effectivement, je crois que le grand public connaît plutôt les avocats pénalistes, connaît peut-être les avocats en droit de la famille. L'avocat d'affaires suit les clients sociétés ou individus, parce qu'il y a des hommes d'affaires qui font leurs affaires à titre individuel, sur des questions touchant à l'économie. Le mieux peut-être c'est d'illustrer. Nous intervenons pour conseiller telle entreprise qui veut racheter telle autre entreprise. Ça s'appelle des fusions-acquisitions. Nous intervenons pour conseiller telle banque ou telle société qui a besoin d'emprunter des fonds importants pour le financement de ses activités. Ça s'appelle du financement. Nous intervenons parfois pour conseiller telle entreprise ou tel État ou tel individu qui a un procès important, mais touchant ses activités économiques. Donc l'avocat d'affaires est totalement investi dans les activités économiques, évidemment sur les questions juridiques, que ce soit pour réaliser des opérations ou pour intervenir effectivement dans des contentieux devant des tribunaux ou dans des arbitrages internationaux.
Pascal Agboyibor, le genre d'avocat que vous êtes, d'habitude, rencontre leurs clients dans les salons feutrés, dans des bureaux opaques, enfin à l'abri des regards et de l'écoute. Et ces avocats se produisent très peu dans les médias. Pourquoi est-ce que vous avez accepté notre invitation? Qu'est-ce qui vous a convaincu de venir vous exprimer au micro de RFI, de sortir de cet anonymat, de cette discrétion que chérissent tant les avocats d'affaires.
Je ne sais pas si Jean-Pierre Boris, vous êtes en train de me dire que je devrais regretter d'avoir accepté l'aimable invitation
de
RFI et Jeune Afrique, mais vous avez raison, moi-même par tempérament et aussi par discipline, j'évite, comme beaucoup de mes collègues, et en général dans la profession, comme vous le dites, d'aller sur des thématiques et de nous exposer. Cela étant dit, certains d'entre nous qui sommes sur des dossiers de place, volontairement ou involontairement, nous sommes cités. Hein. Les dossiers de place, ce sont les dossiers qui font l'objet de communiqués de la part des clients. Et dans ces dossiers, les cabinets qui sont intervenus et les avocats qui sont intervenus sont cités. Donc on n'est pas dans l'anonymat total. Il me semble également qu'il y a une démarche citoyenne. Hein. Lorsque j'ai été contacté, j'ai interrogé les biens, on s'est dit que ce genre d'intervention, d'émission, permet également tout de même d'éclairer, pas seulement le grand public, mais c'est aussi susciter des vocations. Il y a des jeunes qui peut-être se font certaines idées de cette profession. Si cette émission peut permettre de les éclairer, de donner envie à des jeunes d'embrasser cette carrière. Et le plus important, c'est aussi que le message passe, notamment sur des questions de plafond de verre, etc., qu'à force de travail, d'ambition, de détermination, qu'on peut parvenir à évoluer de d'une certaine manière hein, au sein des grands cabinets et aller jusqu'à ambitionner d'être au board, encore qu'il n'y a pas d'approche carriériste dans ces choses-là. On est avocat d'affaires et on s'attache tous les jours à satisfaire les clients, ce sur quoi ils nous ont appelés, et non pas avoir une carrière.
Vous parlez de plafond de verre, mais c'est intéressant parce que vous êtes quand même dans un cabinet américain, même si à l'origine vous étiez dans des cabinets français. Aujourd'hui, il a été absorbé, ou je ne sais pas quel est le terme, en tout cas, c'est un cabinet américain. Est-ce que vous pensez que votre position aujourd'hui d'avocat associé, c'est-à-dire finalement vous êtes au plus haut niveau que peut avoir un avocat, vous l'auriez eu dans un cabinet purement français? Des gens comme Tidiane Thiam, le patron de Crédit Suisse, par exemple, a toujours dit que sa carrière, il ne l'aurait jamais fait dans une entreprise française.
Moi, je pense aussi qu'il faut faire attention autre temps, autre mœurs. Lorsque j'ai commencé ma carrière en 1992-1993, il faut aussi... les mentalités n'étaient pas les mêmes. Effectivement, j'étais dans un très prestigieux cabinet d'affaires parisien. Ils m'ont accueilli, ça a un sens, ma candidature n'a pas été rejetée, donc faut quand même éviter d'être ingrat. Mais est-ce que à l'époque les esprits étaient prêts pour déjà associer un collaborateur qui ne rentre pas dans le profil, répond pas au profil type? Probablement que non.
Quand vous dites profil type, vous voulez dire noir, c'est ça? Je
ne suis pas du genre à tourner autour du pot, mais il faut aussi éviter systématiquement de tout ramener à la couleur de la peau. Parce que même dans le pays, à l'époque, il y avait probablement une propension à plutôt promouvoir des gens issus de certaines familles, etc. Donc c'est pas que la couleur de la peau, c'est ce que le collaborateur... Il y a l'origine sociale, etc. Donc il faut faire attention à ne pas tout ramener à la couleur de la peau. Mais je pense que les choses ont évolué. Les choses ont radicalement évolué, et on l'a senti déjà au début des années 90, des années 2000, où les cabinets, qu'ils soient français d'origine ou anglo-saxon, étaient plus ouverts à recruter des collaborateurs d'origine diverse. Et aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut entendre, hein, les tensions dans les pays, je pense que il est acquis que les questions de diversité sont intégrées également dans nos structures. C'est pas tant pour faire du social, c'est simplement que c'est une réalité, une évidence que dans les dossiers, on se retrouve autour de la table avec des clients eux-mêmes d'origines diverses, et à un moment donné, il faut une fluidité dans les relations, dans les négociations, dans les traitements de dossiers. Mais il est certain, pour répondre plus précisément à votre question, que oui, les mentalités ont évolué dans le pays entre le début des années 90 et aujourd'hui en termes de recrutement de collaborateurs d'origine diverse.
Alors Pascal Agboyibor, on le disait tout à l'heure, vous êtes membre du conseil d'administration d'ORIC, ce grand cabinet d'avocats américain. Est-ce que ça veut dire que c'est une reconnaissance du fait que l'Afrique est devenue un marché important, même pour ce cabinet d'avocats?
Je pense que oui, je ne crois pas que mon élection, parce que c'est une élection chez nous, l'élection au board soit nécessairement liée à cela, parce que moi, avant d'être élu au board, j'étais déjà le managing partner, disons gérant du bureau de Paris. J'étais gérant du bureau de Paris et un des plus importants bureaux du cabinet pendant 6 ans. Et dans ces années-là, je ne m'occupais que des opérations de financement structuré en France et en Europe. Mais il faut rendre hommage au cabinet qui, très tôt, a décidé qu'en tant que zone géographique, l'Afrique devrait être une des priorités. Et effectivement, de ce point de vue, sans que ce soit lié à ma pauvre et modeste personne, l'Afrique est une priorité du cabinet et évidemment, en ayant un siège autour de la table où je participe à la définition de la vision du cabinet, oui, et forcément j'ai une voix, j'engage le débat en direct avec ceux qui décident de la stratégie de l'avenir du cabinet, et donc l'Afrique est portée à ce moment-là, je pense, à un niveau qui est tout à fait prioritaire.
Frédéric Maury.
Vous avez parlé de donner envie aux jeunes qui nous écoutent, ou peut-être aux moins jeunes, d'être avocat d'affaires, mais vous êtes avocat d'affaires à Paris, et donc il y a un certain nombre d'auditeurs, la plupart même, qui sont basés en Afrique. Est-ce que avocat d'affaires en Afrique, aujourd'hui ça existe? Est-ce qu'il y a des avocats d'affaires locaux qui se développent? Est-ce que c'est, comment on accède à ce métier-là, par exemple, si on est africain?
Oui, je rappellerai encore, Frédéric Maury, que, encore une fois, 100% de mon temps aujourd'hui est dédié à l'Afrique. 100% de mon temps professionnel.
Mais vous êtes parachuté en quelque sorte.
Mais vous êtes ce qu'on appelle un flying lawyer, c'est-à-dire vous êtes avocat dans les avions. Mais
je voyage beaucoup comme mon confrère de Cotonou ou de Windhoek, si ses affaires sont florissantes, passerait son temps à voyager. Donc de ce point de vue, il faut relativiser la question de la résidence. Quand vous avez beaucoup de clients dans beaucoup de pays, forcément, vous voyagez. Et je dirais même que le choix du pays de résidence devient parfois un choix tributaire des facilités.
Et répondez à ma question, on a bien compris. Mais est-ce qu'on peut être avocat d'affaires aujourd'hui à Cotonou, à Abidjan, à Dakar,
être avocat d'affaires à Lomé, à Cotonou ou à Nairobi? Nous avons des collègues, des confrères qui sont des avocats d'affaires accomplis en Afrique. Je dirais que cela n'a pas attendu aujourd'hui, sans ramener les choses à des affaires familiales. Je considère que le cabinet de mon père, pendant plusieurs décennies, était un des cabinets d'affaires du continent. Par la suite, et aujourd'hui encore, j'insiste, nous avons des avocats d'affaires absolument compétents. Le reste, c'est une question de structure. La différence entre ce que les cabinets comme le nôtre reflètent, c'est quoi? Il y a une organisation. Il y a une organisation qui vise à la pérennité de la structure. Donc la structure n'est pas dépendante des individus. En Afrique, il faudra passer à ce stade où, parce qu'il y a une organisation, une structure d'association, qui fait que l'entité évolue, traverse le temps, malgré les avocats seniors qui passent. Cela étant dit à un instant T, il y a des avocats d'affaires absolument avertis et compétents sur le continent. C'est plus une question d'organisation et de structuration de leur cabinet pour leur assurer la pérennité de leur activité. C'est plutôt ça le débat.
Pascal Agboyibor est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, que nous retrouvons dans 3 minutes après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Retrouvez Écho d'ici, écho d'ailleurs, après le Flash Info avec Orange Monnaie. Orange. Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous propose Écho d'ici, écho d'ailleurs. Orange.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cette émission. L'avocat togolais Pascal Agboyibor est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique de ce tout début d'année, membre du conseil d'administration du cabinet américain ORIC qui regroupe 1100 avocats. Pascal Agboyibor nous a expliqué dans la première partie de cette émission quel était son parcours, comment le jeune avocat togolais qu'il était avait fait pour se retrouver au conseil d'administration d'un des plus grands cabinets d'avocats au monde. Et puis nous avons continué en parlant de ses souhaits, de la raison pour laquelle il était à ce micro. C'était pour en quelque sorte convaincre d'autres jeunes africains de se lancer dans la carrière d'avocat d'affaires, de leur dire que le plafond de verre n'existait plus autant que par le passé. Continuons à parler de l'Afrique, Pascal Agboyibor. L'an dernier, globalement, même s'il y a eu des différences notoires entre pays, l'Afrique n'a vu sa richesse progresser que de 1,6%, ce qui est très peu par rapport aux années précédentes où il y avait eu le boom des matières premières et où la croissance tournait autour des 5%. Est-ce que cette conjoncture économique africaine vous inquiète pour cette année 2017?
J'ai tendance parfois à questionner la fiabilité des statistiques, surtout lorsqu'il s'agit d'Afrique, premièrement. Deuxièmement, ces chiffres aussi ont à voir avec la baisse des cours des matières premières. Ça ne veut pas dire nécessairement, selon moi, qu'il y a eu, en termes de magnitude, une telle réduction de richesse. Je pense qu'il y a de la richesse qui est créée. Il suffit d'aller en Afrique pour voir l'ébullition.
Ce que vous dites, c'est que sur le terrain, ça ne se sent pas autant dans les chiffres.
Je pense, et toutes mes excuses à ceux qui nous écoutent et qui sont sur le terrain et qui, évidemment, ont des conditions difficiles, mais je suis en Afrique toutes les semaines. Moi, je vois sur le terrain les gens sont extrêmement entrepreneurs. Évidemment, il y a l'anxiété sur certains terrains, notamment politiques, mais en termes d'engagement économique, je ne sens pas de dépression, si vous voulez. Cela étant dit, revenant à votre question, oui, nous sommes tous attentifs. Nos cabinets conseillent plutôt des grandes entreprises globales et des gouvernements. Et nous sommes appelés, lorsque les clients sont confiants dans le climat des affaires, sont confiants qu'il y a des opportunités. Donc si l'ambiance est générale et que il faut se méfier qu'il y a des conditions économiques difficiles, ça peut nous impacter.
C'est plutôt
de l'autre
ça,
côté...
C'est parfois. En général, c'est-à-dire, vous sentez que ces grandes entreprises internationales, elles sont plutôt prudentes en ce moment en Afrique
ou non ? On sent ces trois derniers mois, tous les rapports disent que la croissance baisse et donc.
Non, mais je parle pas des rapports, je parle de vos clients multinationales.
Nous avons des opportunités. Sincèrement, lorsque les conditions sont difficiles, il y a des positions d'achat qui s'ouvrent et donc là où on voit crise, d'autres voient opportunités. Et les avocats.
Vous êtes gagnant à tous les coups, que ça aille mal ou bien.
Je ne le dirais pas comme ça, mais il y a des opportunités. Donc les cabinets d'affaires sont appelés, tout à fait. Il n'y a pas une baisse d'activité dans nos cabinets, pour dire les choses plus clairement, et nous sommes raisonnablement confiants pour l'année qui s'ouvre.
Pascal Agboyibor, on le disait au cours de la première partie, et puis je l'ai rappelé en introduction de cette seconde, vous êtes quelqu'un d'important au sein du cabinet d'avocats américain ORIC. Vous nous disiez avant l'émission que vous étiez très fréquemment aux États-Unis. Dans deux semaines, il y aura un nouveau président américain, Donald Trump, qui s'installera à la Maison-Blanche. Il dirigera la première puissance économique et militaire mondiale. Comment est-ce que vous accueillez cette transition, cette arrivée au pouvoir de Donald Trump ?
Ce que je vois, c'est simplement que les marchés n'ont pas plongé.
Les marchés financiers boursiers, vous voulez dire ?
N'ont pas plongé. Au contraire, il y a même des commodities qui ont repris
des matières premières.
Les matières premières ont repris un peu de couleur parce que finalement le programme qu'il annonce ou en tout cas qu'il inspire veut la relance de certains grands chantiers. Il y a des gros projets d'infrastructure qui vont reprendre. On parle de dérégulation et du point de vue des affaires, c'est plutôt, ce sont des annonces qui sont de nature à plutôt booster les affaires, même si, là pour le coup, sur les marchés financiers n'aiment pas les incertitudes, on ne sait pas finalement quelle direction prendront les décisions les plus précises, mais tout indique que, au contraire, du point de vue des affaires parce que c'est America is back et parce qu'il y a de très gros chantiers qui sont lancés. Les indicateurs semblent plutôt stables ou s'orientant vers
le vert. Frédéric Maury.
Vous le disiez, enfin, vous le sous-entendez, il y a aussi beaucoup d'incertitudes dans ce que va faire Donald Trump. Il y a des signaux, certes, mais on ne sait pas forcément exactement ce qui va se passer. Est-ce qu'en tant que citoyen africain, là, je ne parle pas de l'employé américain, mais de l'africain, vous êtes quand même inquiet pour l'Afrique dans le sens où Donald Trump, il est plutôt partisan de refermer les frontières, de pousser les Américains à surtout investir chez eux plutôt que d'investir ailleurs dans le monde, donc en Afrique, peut-être d'arrêter la GOA, je ne sais pas. Donc, est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à ça?
Je suis pas inquiet. Je vais répondre très clairement. Je suis pas inquiet. Moi, je pense qu'il faut aussi ces moments de confrontation pour que chacun se révèle et notamment affirme la clarté de sa vision et sa détermination. Je pense que nous vivons des temps où, du point de vue du leadership, il peut parfois manquer de l'autorité, il peut manquer l'autorité de l'État, il peut manquer de l'intégrité l'agissement des agents de l'État et des représentants de l'État. Et si on passe dans une configuration où finalement chacun doit se battre pour défendre ses intérêts et affirmer ses positions, je pense que c'est une relation virile qui est tout à fait souhaitable dans les temps que nous traversons en Afrique où on passe son temps à dire que l'Afrique est le territoire de demain, c'est le nouvel Eldorado, mais l'Afrique ne sera le territoire de demain et le nouvel Eldorado que si les acteurs africains se prennent en main. Donc toute évolution quitte va obliger les dirigeants, les hommes d'affaires, les étudiants, chacun à prendre conscience de ce que c'est à eux-mêmes de définir, de tracer leur direction et ensuite d'aller en dialogue avec les autres parce que ce dont on parle c'est quoi? Dans la coopération, chacun doit arriver avec sa vision, son approche et on voit où se situe le point d'équilibre. Mais si vous attendez que les autres vous disent toujours ce qu'il y a lieu de faire, je ne pense pas que vous améliorez votre sort. Donc je ne suis certainement pas inquiet des orientations qui prises.
On sent dans ce que vous dites sous-jacent une critique des relations de l'aide publique au développement, des relations entre l'Afrique et les pays développés et les institutions financières.
Ouais. Je pense que vous êtes pour des relations plus viriles.
En tant que citoyen, je pense que parfois j'ai pu m'exprimer. Oui, le statu quo n'est bon pour personne. Dans ma petite vie professionnelle, ce que je vois chez mes clients qui investissent des milliards en Afrique, ce qui les arrangerait, ce sont des partenaires qui s'assument, des partenaires qui savent ce qu'ils veulent, de façon à ce que quand on a topé, on sait qu'on a topé. Pas des gens hésitants qui, en réalité, fuient les priorités, éventuellement ne regardent que leurs propres intérêts. Non, donc oui, je pense que les questions d'aide et les questions de coopération... il serait bien heureux à un moment donné que ces questions soient approchées d'une autre manière. Encore une fois, que les Africains définissent leur agenda dans l'intérêt de l'Afrique et que les partenaires également viennent avec leur agenda et que le point d'équilibre se fasse de façon tout à fait réaliste. Je dis bien tout à fait réaliste. Un investisseur ne vient pas pour aider, un investisseur vient pour faire des affaires.
Alors, la relation américano-africaine, l'un des experts américains les plus compétents l'a abordé il y a quelques jours sur les antennes de RFI au micro de Christophe Boisbouvier. Écoutez ce que disait Herman Cohen sur l'attitude probable de Donald Trump vis-à-vis de l'Afrique et de ses dirigeants.
Il va même pas réfléchir sur l'Afrique pendant quelques mois. C'est la dernière priorité pour lui. Je crois qu'il préfère traiter avec des hommes forts. Donc, je crois pas qu'il va parler beaucoup de la bonne gouvernance ou de la démocratie. Il va essayer de faire des accords avec des hommes forts. Par exemple, avec M. Kagame, M. Kenyatta, M. Sassou Nguesso.
Et le futur secrétaire d'État de Donald Trump, Rex Tillerson, est-ce qu'il va poursuivre la politique africaine de l'actuel secrétaire d'État, John Kerry?
Je ne sais pas, parce que pour le moment, il se concentre sur le procédé de confirmation du Sénat, donc il ne se prononce pas. Mais il connaît l'Afrique très bien. Comme PDG de Exxon, il y a des grandes opérations au Nigeria, en Angola, au Tchad. donc il connaît tous ces chefs d'État.
Alors c'était Herman Cohen au micro de Christophe Boisbouvier, Herman Cohen qui a travaillé sur les questions africaines à l'époque de George Bush, père, président des États-Unis. C'est le grand invité de l'économie sur RFI et Jeune Afrique avec Pascal Agboibor, avocat togolais, membre du conseil d'administration du cabinet américain ORIC. Frédéric Maury, une question.
Finalement, ce qu'on entend dans ce reportage, c'est une confirmation un peu de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire finalement, Donald Trump, il va surtout parler à des hommes, on va dire, ce qu'on appelle un peu rapidement peut-être des hommes forts, des gens finalement qui savent ce qu'ils veulent, du type, je pense que dans les exemples, il y avait notamment Kagame au Rwanda, donc c'est un peu dans le même sens que ce que vous disiez tout à l'heure.
Je pense, hein, encore une fois, enlever toute connotation politique, oui, je pense que les gens préfèrent des interlocuteurs forts, qui ont les idées claires, et qu'on puisse aborder les vrais sujets et trouver des points d'équilibre. C'est exactement ce que j'avais l'intention de dire, oui.
Mais est-ce que vous pensez que ces entreprises américaines, par exemple, vont continuer à investir dans l'électrification du continent ? Il y a un projet qui a été lancé par le président Obama qui incite, sur base de partenariats publics-privés, les entreprises américaines à financer l'électrification du continent. Est-ce que vous pensez que ce projet va être confirmé, amplifié, développé par Donald Trump, ou qu'au contraire, si on vous écoute, c'est spécifiquement aux investisseurs africains, aux dirigeants africains, de gérer ce problème et de s'en tirer tout seul?
Les politiques font des déclarations politiques. La vie des affaires est encore autre chose. Le Power Africa a été lancé, bien entendu, dans un contexte de volonté d'accélération d'électrification du continent. Il y a une composante subvention là-dedans, évidemment, qui justifie l'intervention de la puissance publique, mais au final, il s'agit d'investissements privés. Demain, je n'ai aucune idée de ce que le président Donald Trump fera de Power Africa. Par contre, ce dont je suis tout à fait certain, c'est qu'il y a du capital en Amérique qui recherche de manière pressante des opportunités d'investissement en Afrique, et parmi ces opportunités, il y a le secteur de l'énergie. Donc oui, je pense que, quoi qu'il arrive en Amérique, il y aura il continuera d'y avoir un engouement, notamment dans les énergies renouvelables, le solaire par exemple, un engouement sérieux des acteurs du secteur. Bien entendu, à cause du risque politique, les investisseurs préfèrent toujours aller dans des schémas où, finalement, les institutions financières internationales de développement sont dans les parages, où les agences de coopération, au pic pour ce qui concerne l'Amérique, est également dans le décor. C'est de ce point de vue que le programme Power Africa présente un intérêt. C'est le confort qui permet ensuite d'attirer le capital privé.
On connaît l'importance de l'électrification, hein, et de tous ces projets énergétiques nourris en Afrique. Il y en a un qui est évidemment le plus symbolique et le plus important de tous, c'est Inga, en République démocratique du Congo. C'est un très très vieux projet. Vous avez, en tant qu'avocat, participé, contribué à relancer, à remettre un peu sur les rails ce projet. Mais bon, pour l'instant, faut constater que ça n'avance toujours pas. Est-ce que c'est un projet auquel vous croyez toujours, ou est-ce que vous pensez finalement, comme d'autres, que Inga c'est trop gros pour la RD Congo, trop gros pour beaucoup de choses, et qui on n'y arrivera pas rapidement?
Je pense que, clairement, ce projet n'est pas trop gros, parce qu'il est phasé. Il est phasé dans la mesure où, effectivement, il ne s'agit pas de faire 40 000 MW en une fois, il s'agit de procéder par étapes, 5 000 MW, 6 000 MW, et des projets de 6 000 MW, il en existe sur cette planète. Donc, ce n'est plus l'utopie, pour être encore plus clair. Le projet est en cours. Il y a une actualité en RDC probablement qui fait que les projets économiques sont éclipsés par rapport au sujet politique, et je pense que chacun le comprendrait, mais le projet en cours d'exécution, tout indique que une décision sera prise à une échéance qui n'est pas lointaine. Encore une fois,
si la situation politique évidemment se calme, évidemment, c'est le type de projet, vous pensez, dans 5 ans ou dans 10 ans, il y aura vraiment une concrétisation, il y aura quelque chose?
Écoutez, quand on n'a pas l'habitude de parler des dossiers sur lesquels nous intervenons, mais c'est un projet tellement public que je peux me permettre de dire que le plan est toujours que les décisions se prennent rapidement sur la sélection d'un développeur qui ensuite se chargera de lancer le projet. Et encore une fois, au moment où on parle, ce projet est sur les rails et devrait aboutir. Et je pense qu'il y a une détermination pour que ce projet aboutisse effectivement. Alors, et change la donne dans la région en termes de fourniture d'énergie électrique en Afrique centrale jusqu'à approvisionner l'Afrique du Sud et éventuellement, puisqu'on parle également d'extension vers l'Afrique de l'Ouest.
Alors, il y a un pays où les problèmes d'électricité semblent cette fois déjà en voie de règlement, en tout cas c'est ce que dit le pouvoir, c'est le Sénégal. Le président Macky Sall a annoncé une baisse des tarifs de l'électricité de 10% grâce à la mise en service de centrales solaires. Écoutez à ce sujet les réactions de la population dakaroise, un reportage signé Aurélie Fontaine à Dakar.
Moussé Badji est menuisier métal. L'électricité représente une grosse part de son budget et il veut croire à cette baisse annoncée des factures.
J'espère qu'il va respecter ses engagements. S'il les respecte vraiment, ça va nous arranger, quoi. Ici, l'électricité, ça coûte cher, excessivement cher. Sur tous les domaines, si tu gagnes 200 000, 250 000, les 100 000 francs, tu payes ça à l'électricité. Sans compter les dépenses à la maison, la loyer, si vraiment tout est difficile, quoi.
Un peu plus loin, fumant une cigarette et buvant son café du matin, un vieux monsieur est sceptique.
Si on baisse l'électricité, il ne faut pas qu'on le mette un mois, deux mois et puis c'est fini. On a vu au niveau du loyer. Le loyer, c'était pareil. Il a dit qu'on va baisser le loyer. Ça a été fait partiellement pour certaines personnes, mais dans la quasi-totalité, ce n'est pas ça. C'est tout à fait politique. On a besoin de choses de concrètes, palpables, quoi, pas de discours.
Ici, nous sommes à Ouakam, une commune de Dakar. Pendant longtemps, les coupures de courant y étaient longues et fréquentes. Depuis l'élection de Macky Sall en 2012, les choses se sont arrangées, disent les habitants. Mais leurs factures restent trop élevées, raconte aussi cette mère de famille.
C'est vraiment cher. En deux mois, tu payes des factures élevées. Ça varie entre 50 000 et 40 000. On est obligé de diminuer beaucoup de choses. Par exemple, le frigo, même s'il fait chaud, tu peux pas l'allumer à long terme. Les lumières, on ne peut pas les garder toute la nuit. C'est trop, trop cher.
Sur l'électricité, le chef de l'État a donné deux chiffres lors de son discours. De 912 heures en 2011, le temps moyen annuel de coupure est passé à 73 heures en 2016.
Un reportage signé Aurélie Fontaine. Frédéric Maury, une question peut-être ?
Alors, à l'image de ce qui se passe au Sénégal, je rappelle qu'au Sénégal, il y a même pas 10 ans, c'était vraiment une catastrophe l'électricité. Hein. Donc, à l'image de ce qui se passe au Sénégal, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une amélioration en Afrique subsaharienne sur les questions énergétiques ou est-ce qu'on est quand même encore loin du compte ?
Je pense qu'on est loin du compte, il faut dire la vérité. Le taux de l'électrification n'est pas satisfaisant. Hein. D'un pays à l'autre, c'est quoi ? On parle de 10% dans les pays les moins électrifiés, et ensuite autour de 30-40% pour le reste, en laissant de côté des pays comme le Maroc, bien entendu. Donc ce n'est pas
Pourquoi ça ne va pas plus vite ? Parce qu'il y a du solaire, il y a de l'hydro, on en parlait tout à l'heure, il y a plein de choses. Donc pourquoi est-ce que ça n'accélère pas ?
Ce n'est pas satisfaisant, on peut aller plus vite. Et je crois que c'est quand même la décision que les grandes institutions ont prise avec les pays concernés pour accélérer. Hein. Il y a cette notion d'accélération. Il y a beaucoup de projets dans les cartons et dans le pipeline. Mais si on suit un rythme normal, on va faire peut-être dans 20 ans ce qui, avec de la volonté et un peu d'ingénierie, on peut faire en 5-7 ans. Et c'est ça le plan, en fait, hein, l'accélération. Oui, en effet, il y a beaucoup de projets solaires, et quasiment maintenant, toutes les semaines, on en annonce. Il y a de grands projets hydro. Et quelques projets gas to power. Si tout ça se fait au bon rythme, on peut espérer un changement dramatique des conditions d'électrification à un horizon, encore une fois, 5-10 ans.
Dramatique au sens anglo-saxon, c'est-à-dire formidable.
Formidable, bien entendu. Bien, merci Jean-Pierre Boris. Cela étant dit, ce dont on parle, Frédéric Maury, c'est quoi ? C'est ce que les gouvernements eux-mêmes font pour faciliter ou créer les conditions pour cette accélération. Les investisseurs arrivent, veulent pouvoir compter sur les gouvernements pour accélérer les conditions d'octroi des autorisations ou des concessions. Je pense qu'il faut une véritable prise de conscience sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on fait pour accélérer les choses, les processus d'appel d'offres sur lesquels on peut perdre 2 ans alors que ça peut se faire en quelques mois, et c'est quand même pas rien. Ces 15 mois de sauvés, c'est pas rien. Ensuite, selon qu'il y a un confort sur les conditions de financement, vous avez un afflux massif de capital. Un exemple, si le risque du financement est sur la Société nationale d'électricité, or, dans beaucoup de ces pays, les crises des années 90 puis une partie 2000 fait que ce ne sont pas des sociétés en bonne santé financière. Donc, s'il n'y a pas une ouverture pour sécuriser le risque de remboursement, alors effectivement, on peut passer des mois et des mois en discussion qui finalement échouent. Là encore, ça impacte le rythme d'accélération en question. Mais sur le papier, sur les papiers, les conditions sont extrêmement bonnes aujourd'hui pour changer dramatiquement, formidablement, cette ambition d'électrification du continent. Après, il faut compter sur les nouvelles technologies. Je pense que le cerveau a du mal à se projeter également. On raisonne à partir de ce qu'on sait aujourd'hui, mais nous sommes surpris par ce que l'innovation peut apporter. Je pense que sur les questions d'électrification, l'innovation va aussi avoir sa part dans l'accélération. Vous savez, tous les projets off-grid, et demain, ça va être autre chose.
C'est en réseau, c'est-à-dire les projets solaires, souvent d'ailleurs, qui sont dans les zones rurales. Hein.
Oui, mais à la fin, ce que les gens veulent, c'est l'accès au courant, peu importe si c'est par les lignes de transport ou si c'est juste un petit panneau qui est posé à l'entrée de la communauté. Mais il faut parier sur tout ça pour anticiper qu'effectivement les choses peuvent changer rapidement et le sort de ce continent peut évoluer. Dernière chose, excusez-moi Jean-Pierre Boris, c'est que le reportage qu'on a entendu et notamment la baisse des coûts, ça aussi c'est intéressant comme observation. Vous vous souvenez qu'il y a 5-7 ans en arrière, on disait que le solaire était un luxe parce qu'on veut l'énergie propre, mais que ça serait cher. De plus en plus, nos clients nous disent, et nous les observons dans les modèles financiers, il y a une baisse importante du prix des panneaux. En 2 ans, sur certains de nos projets, on a vu le prix des panneaux baisser de 30%. Vous traduisez l'influence de cela sur le prix de l'électricité, effectivement, on peut être optimiste.
Alors, on approche de la fin de cette émission. Pascal Agbo-Ibor, l'un des problèmes que va rencontrer ou que rencontre déjà Donald Trump, c'est celui de ses conflits d'intérêts, la confusion entre ses intérêts personnels, ceux de son empire immobilier et ceux du pays qu'il va diriger à partir du 20 janvier prochain. Ça ne semble pas le gêner outre mesure, ces éventuels conflits d'intérêts. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur la lutte contre la corruption en Afrique, cet exemple Trump, sur la confusion des intérêts publics et privés des chefs d'État ou des hauts fonctionnaires africains?
Je ne pense pas et je pense qu'il faut éviter d'entretenir un doute ou une confusion quelconque. Je crois que les Américains ont élu leur président sachant qu'il était extrêmement riche et je pense que les Américains, le pragmatisme des Américains, ils sauront trouver les mesures et les instruments pour éviter les confusions, même s'il y aura des questionnements de temps en temps.
Donc ça me paraît clair. En Afrique où les garde-fous n'existent pas, est-ce que le risque n'est pas justement de favoriser des dérapages qui existent déjà?
Je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement. Soit les risques existent déjà, et je pense en tant que citoyen qu'il doit y avoir, les populations doivent constituer, de renforcer le bouclier, et notamment sur les questions éthiques, d'éthique et de compliance, mais ça n'a rien à voir avec M. Trump.
Oui. Mais s'il s'agit de dire... En tant qu'avocat, Pascal Oigo...
Non, je veux être clair sur une chose. Je pense que l'Afrique va changer rapidement si effectivement il y a une exigence éthique, mais ce sont les populations, ce sont les élites qui doivent à un moment donné s'approprier cette exigence morale, que on doit faire en sorte que la richesse publique serve le public. Oui, donc de ce point de vue, je suis d'accord, mais...
Cette exigence d'éthique que vous appelez de vos voeux venant de la population, est-ce que vous la sentez croître au niveau des dirigeants politiques et économiques de ce continent que vous sillonnez en permanence?
Très diplomatiquement, je vais vous dire qu'il est très souhaitable que ces dirigeants le montrent davantage, qu'ils en ont conscience.
Une dernière question, Frédéric Maury, et une réponse très très courte, j'insiste là-dessus.
Une dernière question plus personnelle, vous soutenez la création d'un fonds diaspora, c'est intéressant, c'est un fonds qui veut finalement amener la diaspora africaine à investir davantage dans les entreprises africaines. Est-ce qu'on peut avoir juste quelques mots sur ce projet?
Les cabinets d'affaires sont des milieux intenses, mais il faut aussi que le public sache que nous avons dans notre organisation ce souci de donner aux communautés. Ça s'appelle le pro bono dans nos cabinets. Donc de temps en temps, et de façon systématique quand même, Nous prenons des dossiers, nous nous embarquons dans des combats où notre travail n'est pas payé. C'est une façon de redonner à la communauté. Le projet que vous évoquez, Monsieur Maury, qui est effectivement une belle idée du Club Efficience de mettre en place une structure qui doit être approuvée par les autorités concernées, l'AMF en France pour être plus clair, vise effectivement à trouver un instrument pour que la diaspora investisse dans ce fonds qui va ensuite soutenir des petites et moyennes entreprises en Afrique, et le cabinet l'a inscrit dans le cadre de son activité pro bono.
Merci Pascal Agboibor d'avoir répondu à nos questions. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez nous retrouver et nous voir sur les sites internet de RFI et de Jeune Afrique. Guillaume Munier a réalisé et mis en onde cette émission et en images aussi. Frédéric Maury, nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous a proposé Écho d'ici, écho d'ailleurs. Orange.